Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Hashtags. Et comme d'habitude, je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane, comment ça va?
Salut Thomas, ça va très bien et toi?
Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé puisqu'on va vous parler du conseil de surveillance de Facebook qui a été annoncé il y a quelques jours. On vous parle de Bytes, dont vous avez parlé il y a très très longtemps. C'est un nouveau réseau social, mais pas si nouveau que ça. Vous allez en savoir plus dans quelques temps, dans quelques minutes. Et on vous parle de la nouvelle fonctionnalité de Facebook qui vous permet de savoir ce que Facebook sait sur vous par l'intermédiaire de tous ses partenaires. On se lance?
Allez.
Donc Stéphane, je sais pas si c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans des épisodes précédents, mais Facebook a donc lancé un nouvel organe de gouvernance qui est donc ce qu'ils appellent ça le Oversight Board. En français, ça se traduirait par conseil de surveillance, mais c'est quand même un tout petit peu plus que ça. C'est presque ce qu'on pourrait appeler une sorte de cour suprême à la Facebook. Est-ce que t'as pris le temps de lire un petit peu sur le sujet?
Oui, un peu. En fait, c'est aussi, c'est un peu comme en France aussi, on a un conseil constitutionnel. Donc, en fait, c'est un organe qui est censé être indépendant de Facebook et en même temps prendre des décisions qui vont contraindre Facebook. Et en fait, on n'en avait pas vraiment parlé, mais en même temps, on avait quand même noté la difficulté de Facebook de prendre des décisions qui sont des décisions... Enfin, à partir du moment où c'est des décisions importantes, Facebook avait toujours plus ou moins eu du mal à les prendre, notamment parce que à Facebook, la personne qui décide, c'est Mark Zuckerberg. Donc, finalement, en fait, on avait toujours eu des décisions qui avaient un impact sur des milliards de personnes, mais qui étaient prises par une personne. Et donc, ça suivait ses opinions politiques et ses idées, en fait. Et l'idée de cette Oversight Board, c'est de faire en sorte que ces décisions qui ont un impact sur des milliards de personnes, elles sont plus prises par Mark Zuckerberg, une personne, et qu'elle soit prise plutôt par une assemblée de personnes, enfin assez restreinte, hein, on parle de 20 à 40 personnes, qui aient des opinions politiques assez diverses et aussi des origines culturelles aussi diverses. Donc pas forcément que des personnes qui ont grandi, qui sont nées aux États-Unis et qui suivent la politique aux États-Unis, mais aussi des personnes qui viendraient d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Et comme ça, ça permettrait d'avoir des gens qui prennent des décisions qui touchent des milliards de personnes au monde, enfin sur la planète, et qui prennent ces décisions en fait en étant un peu moins, comment dire, fermé,
américano-centrique.
Ouais, exactement.
Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il faut préciser un petit peu quand tu dis donc c'est Mark Zuckerberg qui décide. On pourrait se dire bah ouais, enfin c'est quoi le problème, hein? Après tout, c'est lui le patron, c'est lui le CEO de Facebook. C'est quand même assez unique à plusieurs niveaux en fait, la façon dont Facebook aujourd'hui est dirigé. Donc faut savoir que Mark Zuckerberg, qui est donc non seulement le CEO mais aussi le fondateur de Facebook, a en fait ce qu'on appelle des actions à double classe. Le système de Facebook fait qu'il y a des actions à double classe et donc que les actions qui sont possédées par Mark Zuckerberg ont beaucoup plus de poids dans le vote des décisions prises par le conseil d'administration que n'importe quel autre détenteur d'actions Facebook. Et donc c'est ça qui a permis à Mark Zuckerberg de continuer à posséder... D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas la majorité en plus au-delà
de
ça.
Oui, il a la majorité.
Ouais, c'est ça. Donc non seulement il y a la majorité des actions, donc ça le rend par défaut la personne qui décide et qui tranche, mais au-delà de ça, il y a aussi ces actions à double classe qui font que ces actions ont plus de poids dans les votes que des personnes qui posséderaient des actions entre guillemets classiques. Et donc du coup, on se retrouve avec, en effet, comme tu dis, un Facebook qui est mondial et on en parle suffisamment à chaque épisode, qui a énormément énormément d'importance dans nos vies, en tout cas dans nos vies en ligne, qui a finalement une seule personne qui tranche et qui décide. Un sujet sur lequel donc il y a eu beaucoup de critiques en interne, en plus des critiques externes, et un sujet à mon avis qui est particulièrement sur le devant de la scène en ce moment, c'est la politique de Facebook au sujet des ads, justement de campagne politique, dont on vous avait parlé à un épisode, je crois.
Ouais. Et en plus, c'est clairement cette année, c'est un sujet majeur de ce qui se passe en ligne, puisqu'en fait
voilà.
C'est plus ou moins les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux ont une influence énorme sur les résultats de l'élection 2016. Et donc, du coup, Facebook a beaucoup de pression actuellement. Mais d'ailleurs, enfin, on reparlait de, enfin, tu disais du pouvoir de Mark Zuckerberg à l'intérieur de Facebook. Hillary Clinton l'a appelé un, enfin, a assimilé ça à un régime. Ouais, exactement. Enfin, et c'est des mots forts en fait, hein, parce que clairement, donc tu parlais des publicités en ligne de politique. La position de la de d'énormément d'employés à Facebook et tout du moins des analystes politiques aux États-Unis, c'est que des politiciens ne devraient pas être permis de poster des publicités qui sont diffamatoires. Et Mark Zuckerberg, par exemple,
je crois que c'est pas diffamatoire. Je t'arrête, excuse-moi. Je crois que c'est mensongère en fait. Donc ça va encore plus loin que ça, dans le sens où finalement. Tu as le droit en tant que politique, en tout cas c'est l'approche que Mark Zuckerberg a prise, c'est Facebook n'empêchera pas les hommes politiques de poster des mensonges sur Facebook, de poster des publicités mensongères qui sont de façon comment dire indiscutable mensongères sur Facebook. Et donc du coup c'est ça qui a déclenché un petit peu la réaction, les réactions chez les hommes politiques, en particulier Elizabeth Warren,
et Hillary Clinton. Mais c'est même d'un point de vue, enfin, les gens qui, les journalistes qui couvrent les technologies aux États-Unis, même les employés de Facebook, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment cette décision et qui pensent même que c'est vraiment une preuve que ce système de une personne prend toutes les décisions ne peut pas marcher à l'échelle d'une compagnie comme Facebook qui influence autant de vies. Et cette problématique, en fait, elle n'est pas juste liée aux États-Unis, puisque des élections, on a partout dans le monde à n'importe quel moment. Et donc, du coup, cette décision très spécifiquement, elle peut avoir des influences énormes. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est aussi curieux de se dire que Zuckerberg, d'un côté, se dit, je pense que c'est aux utilisateurs de Facebook de faire leurs recherches et de comprendre est-ce qu'une publicité est vraie ou fausse. Et en même temps, de l'autre côté, permettre la création de cette Cour suprême qui permettrait de plus ou moins aller en l'encontre de ses propres décisions.
Ouais. Et donc pour revenir un petit peu sur la Cour suprême en question, donc comment est-ce que ça marche? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire ils vont créer un organe indépendant. Comment est-ce qu'une société qui a priori est à l'initiative du projet, mais est aussi, on va le voir, la source de fonds du projet en question, comment est-ce que on peut réussir à créer un organe indépendant? C'est assez compliqué, hein, pour résumer les choses, mais en gros, déjà l'initiative du projet, donc ça a été initialement suggéré par quelqu'un qui s'appelle Noah Feldman, qui est un professeur de droit à Harvard, donc Harvard Law, qui est bien connu, qui est un peu la référence aux États-Unis en termes de droit, on va dire, l'université de référence. C'est un ancien collègue ou un ancien ami d'université de Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook. Et Noah Feldman a un peu pris la Cour suprême américaine comme exemple pour définir un petit peu ce que ce Oversight Board serait. Si vous voulez en savoir plus, ils ont d'ailleurs publié les statuts de l'organisation. Donc vous pouvez aller voir ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est parce que ça devient enfin public. On savait que l'initiative était en cours, mais ils avaient rien annoncé jusqu'à maintenant. Pour décrire un petit peu les choses, donc c'est indépendant dans le sens où ils ont créé une LLC séparée, donc je sais plus ce que c'est LLC, mais c'est en gros une forme d'entreprise qui s'occupe de l'organisation et du financement en fait des activités de cette cour. Donc à partir du moment où la LLC a été créée, elle a reçu un grant, donc c'est une subvention de la part de Facebook de 130 millions de dollars, donc ça fait beaucoup d'argent. Et donc faut savoir qu'en fait c'est pas l'idée, c'est pas on met ça sur un compte en banque et puis tous les mois en gros on enlève de l'argent pour payer les employés. Non, en fait c'est vraiment beaucoup plus d'argent que ce dont cette organisation a besoin a priori. Et donc cet argent, ça marche, c'est comme ça que les fondations fonctionnent, hein. Donc cet argent va être investi. Et en fait, c'est les revenus les revenus de ces investissements qui vont servir en fait à financer l'activité de cette oversight board. Donc en théorie, jusqu'à ce que ça change, on va dire, mais en théorie, aujourd'hui, c'est de l'argent qui devrait suffire pour financer les activités de cette organisation, sans que Facebook ait besoin de remettre de l'argent au pot, en fait. Et okay, un dernier truc aussi à savoir.
Ça permet de. Ouais, vas-y. Vas-y.
Et donc le dernier truc à savoir aussi, c'est que a priori, alors ça, c'est pour le coup, c'est purement comment dire contractuel, on va dire. Mais les engagements pris par, enfin les résolutions prises par cette oversight board sont contraignants. Donc ça veut dire que Facebook peut pas dire ouais bon ok vous avez dit ça, mais nous on est une entreprise indépendante et on s'en fiche. Facebook en fait s'engage. Et alors après, faudrait voir en cas de litige jusqu'où est-ce que ça peut aller. Mais Facebook s'engage à suivre les recommandations ou les comment dire les conclusions de cette oversight board. Bon, alors faut dire que en pratique, peut-être que on pourrait imaginer dans un cas extrême que Facebook décide de s'asseoir sur une de ces conclusions, mais ça leur ferait quand même perdre toute crédibilité en fait. Parce que c'est eux qui sont à l'initiative du projet, et donc du coup, si au bout d'un moment ils disent « Ouais, bon, on a créé ça, mais à l'époque, on savait pas, et donc du coup, on a décidé cette fois-ci de faire une exception », bah, ce serait quand même compliqué en termes d'image, en fait, pour Facebook, après, de dire « Regardez, on a créé cet organe indépendant pour avoir un peu d'oversight sur notre activité. » Donc voilà, donc c'est un peu, on va dire, je sais pas exactement comment dire les choses, mais... si Facebook veut continuer à être crédible, à partir du moment où ils disent qu'ils s'engagent à respecter les décisions de la cour, s'ils ne le font pas, ils se tirent un petit peu une balle dans le pied.
Exactement. Et mais c'est un peu le problème de enfin c'est pas vraiment un problème en fait, c'est un peu c'est on a juste à attendre et voir ce qui se passe en fait, parce que tant ouais. qu'il y a pas une première décision, tant qu'il y a pas les premiers cas qui ont été jugés. Tu vois, c'est un peu comme le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême des États-Unis. En fait, ce qui fait leur force, c'est vraiment l'historique de leurs décisions. Et donc, en fait, on va pas pouvoir vraiment juger de ce que c'est vraiment utile ou pas.
Ouais.
Tant que ce board n'aura pas pris une décision qui va en contre de Mark Zuckerberg, en fait. C'est vraiment ça qui va nous permettre de juger. C'est pas forcément Facebook contre
ces utilisateurs.
Voilà. C'est vraiment... Quand ce board prendra une décision qui est publiquement à l'encontre de ce que Mark Zuckerberg a aussi dit publiquement, qu'on verra comment Facebook va réagir et va choisir quelle direction prendre en fait.
Ouais, et c'est marrant parce que d'ailleurs, il me semble que initialement c'est quelque chose qui est fait pour qui ne peut être saisi que par des personnes qui sont internes à Facebook dans un premier temps, d'après ce que j'ai compris. Et dans un second temps, ce sera potentiellement ouvert à d'autres personnes. Donc ça veut dire que dans un premier temps, typiquement, ce board va être saisi par, je sais pas, des employés, mettons un PM, un product manager de Facebook qui veut absolument que sa fonctionnalité passe, mais à qui Sandberg et Zuckerberg ont dit non, désolé, c'est une mauvaise idée. Et donc du coup, tu pourras.
L'article de Wired a été, ils ont mis à jour en disant qu'en fait non, tout le monde peut.
C'est vrai?
Ouais, là, tout en bas, il...
Ah ok, j'ai raté ça.
c'est la dernière, l'avant-dernière ligne.
D'accord, ok. Bah, quand je l'ai lu, il y avait peut-être pas ça alors, du coup, je sais pas. Ok, bon, donc du coup, on oublie. Ça m'apprendra à ne pas relire mes articles juste avant d'en parler. Ouais. Mais c'est un article qui est assez long en plus.
Ouais, il est très long.
Je suis en train de me trouver des excuses. Mais ok, donc ça a été changé. Ok, parce que je pensais que c'était initialement interne et je me suis dit, ouais, ça pourrait donner lieu à des situations assez cocasses. En gros, t'as le grand patron qui te dit non, on peut pas faire ça. Et donc du coup, tu saisis le board of oversight pour faire passer ton idée. Où tu attaques directement Zuckerberg, le CEO, via le board of oversight parce que tu estimes qu'il a pris une décision qui est pas éthique, ça peut créer potentiellement des situations un tout petit peu compliquées, mais donc du coup non, ok. Donc c'est bien, l'idée c'est bien d'avoir quelqu'un comme Warren par exemple qui, au lieu de faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire postée en réponse donc à cette politique des publicités politiques de Facebook qui a posté un message en disant Mark Zuckerberg a porté son soutien à Donald Trump ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'était ce qu'elle avait fait. Mmh. Et après elle avait dit en gros dans le message, vous voyez, ceci est un mensonge, mais à cause de la politique de Facebook, eh ben je peux très bien m'autoriser à poster des mensonges sur Facebook et personne ne peut rien me dire. C'est scandaleux. Enfin, je paraphrase un peu. Donc du coup, au lieu de faire ce genre de choses, elle pourra potentiellement saisir le board of oversight, l'oversight board. Je suis curieux de voir ouais, comment ça va se mettre en place. Je pense que il va falloir, à mon avis, un tout petit peu de temps. Ça arrive un tout petit peu trop tard, je pense, par rapport à l'échéance de l'élection.
Oui.
Ouais.
Mais bon. En même temps, ça a commencé, ça a quand même commencé, ça a 2 ans tout ce processus, hein. Donc,
ouais, c'est ça. Ouais. Ça a mis un peu de temps à maturer. Oui, ça a commencé en 2018. Donc, et je pense que c'est, ouais, je pense que c'est, enfin, ça montre quand même une certaine, une certaine vision en fait de Zuckerberg. Enfin, je vais pas faire l'apologie de Mark Zuckerberg, mais il y a quand même, enfin, c'est quelqu'un qu'on adore détester aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui s'en prennent à lui parce que bah Facebook, surtout dans une situation où ils ont pris beaucoup trop de pouvoir et il y a pas suffisamment de contre-pouvoir à Facebook, aussi bien en interne qu'en externe. Et enfin, en interne, il y a pas de contre-pouvoir à Mark Zuckerberg et en externe, il y a pas beaucoup de contre-pouvoir à Facebook. Et puis le législateur est complètement dépassé. On l'a vu au cours des différentes sessions au Parlement. Je pense que c'est quand même globalement une bonne chose. Maintenant, c'est probablement pas suffisant. Il faudrait plus d'initiatives de ce type-là de la part de Facebook, je pense.
Ouais. Mais je pense aussi que c'est un intérêt pour Mark Zuckerberg d'avoir cet oversight board, parce que ça lui permettrait d'avoir beaucoup plus de liberté d'expression qu'il n'a pas forcément aujourd'hui, parce qu'en fait il doit toujours. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il pense qu'il ne peut pas dire, et avoir ce conseil de surveillance Cour suprême permettrait justement pour lui de pouvoir s'exprimer beaucoup plus sur ce qu'il a envie de dire de toutes ces questions qui sont vraiment des questions importantes pour tout ce qui est politique et droit de l'homme et comment il en est, et sa vision de Facebook à tous ces petits niveaux. Et en fait, il peut pas le faire aujourd'hui parce qu'il a cette voix de CEO de Facebook, et en fait le fait d'avoir cet organe bah lui permettrait de pouvoir tu vois de pouvoir dire bah en fait vous voyez eux ils ont pris cette décision mais moi j'aurais fait autrement, tu vois.
Ouais. Donc voilà, assez intéressant. Je sais pas si c'est un cas unique. J'ai fait des recherches, mais c'est difficile de savoir en fait c'est un genre de structure qui existe dans d'autres compagnies ou s'il y a des choses équivalentes. Clairement, au niveau d'organisations multi-étatiques, je pense à l'ONU ou le FMI ou ce genre d'organisation, clairement, on a ce genre de cours d'arbitrage, mais c'est différent, c'est parce que c'est des États en général qui s'opposent.
Peut-être dans tout ce qui est lié au sport, tu vois, genre les Jeux Olympiques ou la FIFA.
Mais du coup, c'est pas propre à une entreprise, en fait. Ce que je cherchais, c'est ça, c'est est-ce que, je sais pas, des grandes multinationales, des hydrocarbures, par exemple, ont ce genre de...
Mais d'ailleurs, dans cet article de Wired, il parle de potentiellement ouvrir cet oversight board à d'autres compagnies, hein. Puisque, il y avait aussi, enfin, l'idée, c'est de pouvoir, c'est de faire en sorte que Facebook puisse faire appel à ce conseil avant même de créer des fonctionnalités pour pouvoir avoir leur avis sur, bah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'un niveau éthique, et en fait de pouvoir potentiellement ouvrir cet accès au conseil à d'autres compagnies comme Google ou Apple ou Twitter.
D'accord.
Et ça pourrait être vraiment intéressant, mine de rien, puisque ça montrerait vraiment que ce conseil est indépendant de Facebook. Et pourquoi pas, hein, à la limite, hein, pourquoi pas avoir une sorte d'organe externe qui permette d'avoir des décisions et comment dire des recommandations tout du moins qui sont données aux compagnies dans le secteur des technologies et des décisions qui sont prises avec des experts, tu vois, et permet d'avoir une sorte de think tank qui sur toutes les questions éthiques qui permettrait aux entreprises de vraiment avoir cette discussion faite d'une manière indépendante et ouverte plutôt que Tu vois, quand Twitter ou Apple ou Google font des nouvelles fonctionnalités, généralement, il n'y a pas forcément d'experts éthiques dans les discussions.
Ouais, et c'est marrant en fait, parce que tu vois, au moment où je dis ça, en fait, je me rappelais, mais attends, Google avait pas lancé un champ de conseil éthique, et en fait, il s'avère qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont fermé tout de suite après l'avoir lancé. Donc, a priori, ils ont lancé quelque chose l'année dernière, en avril.
C'est pas très bon signe, ça, hein.
Ouais, ils l'ont lancé fin mars et ils l'ont fermé mi-avril. et je suis en train de faire des recherches en parallèle. Alors du coup, donc ça s'appelait l'ATEAC, Advanced Technology External Advisory Council. Et en gros, ouais, c'est bizarre. Il semblerait qu'il l'ait ouvert et qu'ils se sont rendu compte qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui ont démissionné dans les premiers jours où ça a été créé, en se rendant compte qu'ils auraient pas le pouvoir ou le pouvoir décisionnel qu'ils espéraient avoir. Donc voilà. Donc il y a eu un exemple de lancé par Google il y a un an, moins d'un an, mais il a été à un moment donné en cours de route. Et c'est marrant qu'on n'en ait pas entendu plus parler que ça, en fait.
Ouais.
Je vais prendre le temps de regarder ça un petit peu en détail. Mais ouais, voilà, ce que tu disais, c'est ça. Il semblerait qu'en fait, Google est presque précurseur involontaire, en fait, de cette approche-là. Même si Google se focalisait sur les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, en fait.
Bah après précurseur, le projet de Mark Zuckerberg, il a quand même été annoncé encore une fois il y a 2 ans, donc
Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc c'était, je sais pas si t'as autre chose à ajouter. Non.
On verra. En
On
fait,
verra.
c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois avec Facebook.
C'est
On
marrant, en
verra.
fait, je sais que j'ai ce tic de langage là, donc j'essaye de travailler dessus, mais des fois c'est le seul truc qui s'impose. Voilà, l'avenir nous dira que penser de l'oversight board de Facebook. Il y a de grandes chances, en tout cas, si et en particulier s'il le ferme dans 3 semaines, il y a de grandes chances qu'on vous en parle dans ce podcast.
Ouais.
Tu voulais ajouter un truc? Non? Ok.
Non.
On passe à Byte?
Allez.
Allez, on passe à Byte. Donc Byte, Byte, en fait, on vous en avait déjà parlé au cours du premier épisode de Hashtags. Donc voilà, ça s'appelait le raccoon fait TikTok ou quelque chose comme ça. Et c'était un épisode d'il y a un peu plus d'un an. Non,
Non, décembre.
le 16 janvier.
Ah
Donc
bon? Je
voilà.
pensais que c'était en
Ouais,
décembre.
non, ouais, on l'avait enregistré un petit peu avant, mais on l'avait lancé. En janvier. Donc, nous, on en a parlé il y a presque un peu plus d'un an, mais on l'a publié il y a à peu près un an. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Byte? Byte, en fait, c'est un peu, pour le dire très simplement, en fait, c'est
Le
je vais pas y arriver.
successeur de Vine, en fait.
Le successeur, c'est le mot que je cherchais. C'est le successeur de Vine et donc un concurrent direct à TikTok. Qui a enfin été relancé. Alors l'histoire de Vine, donc on vous en avait parlé au cours de cet épisode-là, en fait, Vine a été racheté par Twitter en 2013, je crois, quelque chose comme ça, 2012, je me rappelle plus. bref, il y a quelques années, plus de 5 ans, pour être quasiment tué en l'espace de quelques mois. Du coup, à l'époque, c'était un peu un drame parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui utilisaient Vine. C'était avant TikTok, c'était avant Facebook Stories. C'était à une époque où Snapchat commençait un petit peu à prendre de l'ampleur, enfin où était déjà assez populaire, mais était quand même assez unique en termes d'usage. Il y avait pas, c'était avant que tout le monde se mette à faire des stories. Donc Vine, c'était quand même un moyen de s'exprimer assez unique. Et qui avait une grosse, grosse, grosse communauté. Et donc, beaucoup de gens étaient très, très heureux quand ils se sont fait racheter par Twitter, pardon, avant d'être complètement désespérés à l'idée de voir Twitter le tuer sans forcément
Ouais, ça
des raisons super claires.
Ouais, il n'y avait pas vraiment de raison.
Ils l'ont racheté, ils ont dépensé de l'argent et ils l'ont tué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hoffman, dont je me rappelle plus le prénom, donc Monsieur Hoffman, qui était un des cofondateurs, voire le fondateur de Vine, en gros, un jour a dit bon, c'est bon, Twitter, c'est fini. Donc, il avait rejoint Twitter dans le cadre de l'acquisition, dans le
Son
cadre de
prénom, c'est
l'acquisition
Dom.
Dom, pour Dominique, peut-être,
Je sais pas, mais DOM.
ou Data Object Modeling. Donc Dom Hoffman en gros a dit bah ouais désolé mais moi Vine c'était un peu mon bébé et bah j'ai pas trop aimé que Twitter le tue comme ça, donc en gros il a attendu ses 2 ans pour pouvoir toucher son chèque, parce qu'en général c'est comme ça que ça marche, et au bout de 2 ans il est parti et il a recréé en fait quelque chose qui est comparable à Vine, qui s'appelle Byte avec un Y. Donc à l'époque, l'année dernière quand on vous en avait parlé, en fait on avait mis des liens vers un wiki en fait qui leur servait à donner des updates sur le développement de Vine, enfin de Byte pardon, pour permettre à la communauté de s'intéresser en fait au processus de développement et donner assez tôt en fait dans le développement leur feedback, leurs vues, leurs opinions et d'aider en fait à créer la plateforme idéale qui serait donc le successeur de Vine. Et donc il s'avère que ça a été lancé la semaine dernière. Donc je t'ai vu tweeter un truc en disant tout le monde allez-y récupérez votre nom. Donc est-ce que t'es @Stéphane sur Byte?
Oui.
Bah ouais, moi je suis arrivé trop tard et du coup c'était déjà pris.
Je l'ai pas tweeté d'ailleurs, c'était dans une conversation de groupe privée.
Ah oui, pardon, c'était pas un tweet. Donc voilà, Stéphane est at Stéphane sur Byte. Donc est-ce que t'as joué un petit peu? Moi je suis at léthargique parce que j'ai essayé de...
Et pas cette place pour Panda.
Ouais, franchement, j'ai essayé de trouver le truc le plus court auquel je pensais. Je suis pas forcément sûr de garder ça, handle, mais... Pour l'instant, je suis athlétargique.
Donc oui,
donc, raconte-nous un peu ton expérience. Ouais.
Franchement, je suis plutôt déçu parce que c'est quand même un produit qui a été développé pendant 5 ans, parce que ça a été annoncé en 2015. Bon, ils ont stoppé et repris le développement plusieurs fois, certes, mais quand même, au bout de 5 ans, je m'attendais à plus quand même.
Ouais.
Parce que finalement, c'est pas si différent de Vine, hein. Il y a pas beaucoup plus de choses à part donc t'as une fonctionnalité qui permet de stopper un enregistrement et d'avoir une image, la dernière image en fait qui apparaît en une sorte de image fantôme, et donc en fait de pouvoir reprendre ce qu'il y avait pas sur Vine mais ce que TikTok fait déjà en fait. Et donc finalement en fait je vois pas vraiment comment quelqu'un qui utilise, pourquoi quelqu'un préférait Byte à TikTok par exemple, tu vois.
Ouais, tu veux dire en termes de fonctionnalité?
Ouais. Enfin, je veux dire, il y a... Même en termes de communauté, en termes de fonctionnalité, en termes de... en tout, quoi.
Ouais. Le problème, c'est toujours pareil, c'est que quand tu lances un réseau social, c'est un peu le problème de d'œuf ou la poule, quoi. TikTok / Musical.ly, c'était un peu ça. Au début, bah oui, il y avait pas forcément grand-chose, donc t'as intérêt à assez rapidement que tes amis directs en fait s'y retrouvent pour pouvoir créer du contenu et au moins avoir un certain sens de communauté, ou alors à l'inverse avoir des personnalités assez fortes, on va dire sur la plateforme et des gens que t'as envie de suivre. Je pense à, je sais pas, des influenceurs sur YouTube, etc., etc. Mais bon, je sais pas en fait. Enfin, je trouve que l'application globalement est quand même pas mal faite. C'est pas ça qui compte. C'est pas est-ce que l'application est sympa à utiliser. C'est en gros est-ce que le contenu est suffisamment cool pour justifier utiliser l'app. Et puis bon après,
il y a aussi une histoire. Est-ce qu'il est différent, tu vois? Qu'est-ce qu'est la différence entre Byte et TikTok?
Le problème, en fait, c'est le contenu. Là, on va rentrer dans les détails de conception de produits et de growth et tout ça. Le truc, c'est que, c'est très facile aujourd'hui de créer un TikTok, ou en tout cas de recréer les fonctionnalités de TikTok. Mais la force de TikTok, c'est la communauté, c'est la capacité à engager les utilisateurs. Enfin, c'est tous ces trucs-là qui, c'est pas que ça se mesure pas, ça se mesure très bien, mais c'est beaucoup moins tangible et concret dans ton utilisation quotidienne de l'application que simplement est-ce que les boutons y réagissent bien et est-ce que les vidéos se lisent correctement, quoi. Donc en fait, enfin, c'est un peu confus ce que je dis, mais quand tu utilises Byte, bah oui, tu tu utilises Byte et tu mets TikTok à côté, il n'y a pas de grosse différence en termes de fonctionnalité. Maintenant, la force de TikTok, typiquement, c'est que bah il va être capable de te recommander des vidéos, enfin de te jouer des vidéos les unes après les autres qui sont complètement adaptées à ce que tu attends et ce que tu as envie de regarder. Et plus tu regardes de vidéos, et plus il est capable de te pousser des vidéos qui t'intéressent, en fait. Et c'est un peu la magie de TikTok. Il y a des articles sur Medium qui décrivent un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait ça. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte. Enfin, c'est une machine qui est super bien huilée. Clairement, aujourd'hui, Vine n'a pas ça. Byte n'a pas ça. Donc ils ont pas, non seulement ils ont pas le contenu pour pouvoir justement te pousser ce type de vidéo qui va te faire rendre complètement accro au projet, au produit, mais en plus ils ont même pas forcément les algorithmes de, enfin c'est même plus de la recommandation, mais les on va dire algorithmes de recommandation pour simplifier. Derrière, et j'imagine qu'ils sont probablement en train de les développer, mais ça prend du temps. C'est des choses qui font appel, qui fait appel à, en général à du deep learning ou du machine learning. Et du coup, donc t'as besoin d'avoir beaucoup de données, donc t'as besoin d'avoir beaucoup de vidéos, t'as besoin d'avoir des informations qui t'aident à mettre des labels sur les vidéos, à les catégoriser, etc., etc. Donc c'est un peu, je sais pas, j'essaie de trouver une analogie simple. C'est un peu comparer une Twingo avec une Mercedes Classe S, tu vois. Enfin, ouais, les deux, c'est des voitures et ça, les deux te permettent d'aller du point A au point B.
Mais donc, du coup, t'en penses quoi de Byte? Tu penses qu'il y a une place pour Byte?
Clairement, on a vu ce qui se passait en ce moment avec Twitter, avec TikTok, qui pose des questions, qui est hyper populaire, mais qui pose des questions de gouvernance, pour reprendre le terme, et aussi des questions de stratégiques, hein, parce que les États-Unis sont en guerre semi-ouverte, en tout cas au moins commerciale et du point de vue des services de sécurité intérieure avec la Chine. Donc je pense que rien que ce point de vue-là, ouais, il y a de la place pour une alternative américaine à TikTok. Maintenant, Byte est pas forcément très très mal placé, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour devenir une plateforme aussi populaire que TikTok, quoi.
OK.
Je suis désolé, je parle beaucoup, mais pour en revenir à ce que tu disais, en gros, pour qu'il gagne, il faut que le produit soit beaucoup plus sticky, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, collant. Non, mais faut que le produit colle à l'audience. Mais pour ça, il faut qu'ils embauchent, il faut qu'ils grossissent, il faut qu'ils lèvent de l'argent probablement. Enfin, il y a tout un tas d'étapes à faire, mais la route est longue, quoi. Je sais pas, t'en penses quoi, toi?
Je suis d'accord avec toi. Je pense que la route est longue, mais en même temps, tu sais, si on se souvient bien de TikTok, ils avaient vraiment, ils avaient grossi énormément aux États-Unis pendant l'été. Donc c'est cette période où il y a pas d'école et tout. Et je pense que les 6 prochains mois pour Byte doivent être des mois où ils se focusent sur préparer leur stratégie et les outils pour leur permettre de grossir aussi. À un moment de l'année où les étudiants n'ont pas grand chose à faire, en fait, tu vois, c'est vraiment, ils ont une énorme opportunité l'été qui arrive, et j'espère qu'ils vont pouvoir en profiter, en fait.
Ouais, mais en fait, enfin, c'est marrant, en fait, parce que le succès d'un produit comme ça est super contre-intuitif, parce qu'au final tu te dis c'est juste une app qui te propose des vidéos, c'est simple. Mais tu vois, là, par exemple, j'ouvre l'application. Bon, je te suis pas encore, Stéphane, donc on n'est pas encore amis sur Byte. Je vais changer ça. Aujourd'hui, par défaut, quand tu te crées un compte, le seul profil que tu suis, c'est le profil de Byte. Donc, tu peux voir les rebytes. Donc, c'est l'équivalent des reposts ou des retweets de Byte. Et tu vois, rien que ça, c'est une opportunité extraordinaire en termes de growth, de faire en sorte que dès que tu arrives, par exemple, ils récupèrent tous tes amis. Je sais plus ce que j'ai utilisé pour m'inscrire, mais en gros, ils récupèrent tous tes amis sur d'autres plateformes. Je sais plus si j'ai utilisé Twitter ou Facebook ou si j'ai juste créé un compte avec mon numéro de téléphone ou un email, je me rappelle plus. Mais tu vois, bon, rien que ça, récupérer en gros ton graphe de connaissances et permettre d'être en contact avec les gens qui utilisent Byte sans que t'aies rien à faire, c'est la première étape, tu vois. Après, je sais pas si tu vois là, par exemple, Twitter, ils ont commencé à mettre d'autres tweets en dessous de tweets sur lesquels t'atterris quand tu cliques sur une notification. Enfin bref, il y a énormément de stratégies à mettre en place pour faire en sorte que ce soit un produit que tu ouvres, je sais pas, 1, 2, 3, 4 fois par jour, jusqu'à ce que tu l'ouvres quasiment toutes les heures pour voir le nouveau contenu. Aujourd'hui, Byte, c'est pas ça, quoi. TikTok, c'est probablement ça pour beaucoup d'utilisateurs. Byte, c'est vraiment loin d'être ça, quoi. Si tu penses pas à l'application, tu l'ouvres pas, tu vois.
Ouais. Mais c'est vrai que j'avais commencé à utiliser TikTok j'étais en voyage, à Philadelphie d'ailleurs, où je retourne ce week-end. Et en fait, j'avais pas grand chose à faire, donc tu vois, enfin, c'était donc le moment où j'ai découvert TikTok, et c'était un week-end où j'avais vraiment rien à faire, et je me suis surpris à réouvrir l'application de temps en temps, tu vois, juste une sorte de divertissement. En fait, c'était comme allumer la télé, se suivait.
Ouais.
Et j'ai installé Byte il y a quelques jours, et je l'ai pas réouvert depuis, tu vois.
Bah ouais, bah c'est exactement ça, donc on va rentrer très vite dans on rentre dans un rabbit hole, comme on dit en anglais, mais il y a un bouquin de, je crois que c'est Nir Eyal, qui s'appelle Hooked. Je sais pas si tu l'as lu.
Non.
C'est un classique, hein. Ça dit quelque chose, ce bouquin, d'ailleurs?
Non.
Stéphane? Tiens, ça m'étonne. Tu, en tant que designer slash développeur slash homme orchestre de la tech, tu devrais, tu devrais le lire. Ouais. Et en fait, en gros, ça décrit un peu les concepts qui sont liés. Donc, c'est presque de la psychologie, en fait. Les choses qui font que tu sois, comment dire, que tu crées une sorte d'habitude à utiliser des produits, en fait. Mmh. Donc le bouquin, c'est Hooked, comme accro. C'est un peu un double tranchant, hein, comme technique. Mais c'est un classique, et il décrit en fait ce qui se passe dans ta tête, en fait, en gros. Du point de vue du cerveau, en fait, pourquoi est-ce que tu vas être accro, qu'est-ce qui va faire en fait que en gros tu vas ouvrir Instagram plusieurs fois par jour, comme tu dis, quand tu t'assois et que t'as rien à faire, quoi.
Mm-hmm.
Pourquoi est-ce que tu vas ouvrir Instagram et que tu vas pas ouvrir le New York Times, par exemple, l'application du New York Times, ou YouTube, ou un truc comme ça? Quelles sont les différences entre ces applications, et qu'est-ce qui font que certaines sont plus habit forming, donc je sais pas comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français, formatrice d'habitude, que d'autres. Et clairement, TikTok est un peu champion du monde là-dessus, quoi, plus encore qu'Instagram, quoi. Alors ça dépend de ton cercle d'amis, ça dépend de ton utilisation et tout ça, et peut-être un petit peu aussi de ta personnalité, mais clairement TikTok est un peu en train de gagner à ce jeu-là. Et c'est vrai que Byte est quand même loin derrière, même si encore une fois, quand tu prends les deux applications et que tu les mets côte à côte, t'as l'impression que c'est un peu les mêmes, quoi.
Ouais. Bah après, c'est une application qui vient d'être sortie, donc c'est vrai que en fait, c'est un peu ce qui est bizarre pour moi. C'est quelque chose, c'est que ils ont, tu as quelqu'un qui a créé Vine, qui est quand même le précurseur de toutes ces applications de vidéo,
ouais,
qui a l'expérience et qui a eu le temps de réfléchir à cette vision pendant des années, tu vois. Et ouais, finalement sortir Byte, je trouve que c'est un peu décevant. Après, ouais, ça veut pas dire que c'est sa vision finale et qu'il y a rien qui arrive derrière, en fait, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est le début. Et puis pour améliorer ce genre de choses, il faut que t'aies une base. Donc tu peux aussi voir cette première version comme étant une base sur laquelle ils vont construire des trucs. Enfin, Twitter, à la base, c'est quand même une application qui est super simple. Et ce qui fait qu'ils ont gagné des nouveaux utilisateurs et qu'ils en ont fait une plateforme engageante, c'est en gros rajouter des fonctionnalités et ajuster des fonctionnalités existantes. Donc faut partir de quelque chose, en fait.
Mm-hmm.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que pour l'instant, bon, j'ai installé l'application, j'ai joué 5 minutes avec, et puis tu vois, je l'avais pas rouverte depuis, quoi. donc ouais. Donc voilà, Byte. Mais je suis assez content, en tout cas, de voir un nouvel entrant sur le sujet, sur le secteur. Et je pense que c'est clairement un truc dont on va suivre les développements et dont on va vous reparler ici.
Et j'en ai acheté Hooked.
Ouais, tu me diras ce que t'en penses. Ok, on enchaîne.
On enchaîne.
Donc on retourne à, c'est le fameux double effet Facebook. On reparle de Facebook pour cette troisième nouvelle super rapide. Donc Facebook a lancé Off Facebook Activity. Je sais pas si t'avais entendu parler de cette fonctionnalité, Stéphane.
Ouais, un peu, ouais.
Donc en gros, si vous allez sur facebook.com/off-facebook-activity, ça vous emmène sur une page et ça vous montre tout un tas d'applications qui ont rien à voir avec Facebook a priori. Donc moi j'ai TikTok, j'ai Audible, j'ai Goodreads, j'ai le New York Times par exemple, plus plein d'autres. Office Depot aussi, qui est l'équivalent de Castorama ici. Alors ça, je sais pas du tout comment ça se fait que Office Depot se retrouve là, mais bref, j'ai même pas d'application Office Depot. Mais donc du coup, tout un tas d'applications plus plein d'autres. Et en fait, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que il y a le logo d'Amazon, du New York Times et tout ça qui s'affiche dans Facebook. En fait, il se passe que ces applications sont un peu des mouchards pour Facebook. C'est des applications qui embarquent le SDK de Facebook et qui fournissent énormément d'informations à Facebook sur vous, et Facebook utilise ça derrière pour vous cibler avec de la publicité. Et donc, c'était un peu une boîte noire, on n'avait pas beaucoup d'informations sur la question. Et donc Facebook hier a annoncé que à partir de maintenant, et ils avaient annoncé ça en fait en 2018 à F8, donc ça fait plus d'un an. Ils avaient annoncé, presque 2 ans bientôt, qu'ils allaient donner la possibilité aux gens de voir un petit peu ce que ces applications tierces étaient capables de fournir comme information à Facebook sur leurs utilisateurs. Et donc voilà, donc c'est enfin disponible après avoir été testé dans quelques zones. Donc en général, Facebook teste ce genre de choses en Australie parce que l'Australie c'est un marché qui est suffisamment éloigné des États-Unis pour ne pas avoir d'effet de bord, mais qui en même temps est assez semblable aux États-Unis. Donc je sais pas exactement où ils l'ont testé en pratique, mais ça a été testé dans des marchés spécifiques. Et donc là, ils viennent enfin de le mettre à disposition du monde entier. Donc Stéphane, est-ce que tu as testé Facebook Off Activity?
Bah non, en fait j'essaie de comprendre comment accéder à mes infos, mais j'arrive pas vraiment à. Parce que tu sais, je vois les applications, les sites, mais je peux pas vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont partagé.
Ouais. En fait, il faut que. Alors c'est assez piégeux. En fait, il faut que tu dises quel genre d'informations tu veux. Donc t'as un truc à configurer et après tu lances le
téléchargement là.
Voilà. Ah, okay. Et donc du coup, il va te générer un
rapport,
une archive en fait, ouais un zip, et du coup tu vas pouvoir télécharger le zip et et là il se passe un truc marrant. Donc j'ai lancé le mien hier soir quand j'ai découvert le truc et que j'ai testé un petit peu, et donc il, en gros je me suis dit bon, on va attendre, hein, il m'a affiché un joli truc en me disant « On est en train de générer votre document, veuillez patienter un petit peu. » Donc j'ai attendu, c'est jamais venu, donc je suis allé me coucher. Et là, je vais sur la page et je vois qu'il m'a généré donc 1 an d'activité sur TikTok. Et ça pèse 1 giga, presque 2 gigas.
Ah ouais.
Et c'est au format HTML, donc c'est peut-être de ma faute. J'aurais peut-être dû. Tu peux en gros exporter ça au format HTML ou au format JSON. Mais du coup, je vais pas télécharger 1 giga de données, c'est débile. donc je pense que je vais réduire un petit peu la fenêtre. Mais je pense que TikTok donne énormément d'informations à Facebook parce que c'est énorme quoi. 1 giga, je sais pas exactement. Alors après c'est ils génèrent en fait ce rapport, donc je pense que ils ont pas 1 giga de données juste pour les infos pour mes infos TikTok en particulier. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est quand même la preuve qu'ils stockent énormément de données de la part d'applications tierces quoi. Donc tout ça pour dire que l'essai que j'ai fait, c'est un peu un fail et je vais probablement réessayer d'une autre façon.
Bah moi je viens de le faire et c'est l'archive pèse 4 mégaoctets. Donc,
En fait, j'ai choisi le mauvais. Donc, j'ai choisi la mauvaise application et j'ai pris trop d'informations. Qu'est-ce que t'as pris du coup?
J'ai pris le truc tout en bas là, les ads.
Les quoi, tu dis?
Ads and businesses. J'ai juste coché cette case.
D'accord. Ok.
Et ouais, c'est intéressant, il y a beaucoup de sites qui déjà il y a énormément de sites en fait.
Ouais, c'est fou quoi. En gros, tu te dis que Facebook c'est tout sur toi quoi. Enfin, c'est incroyable parce que tout le monde utilise Facebook, le SDK de Facebook. Tout le monde utilise en gros un mouchard lié à Facebook qui est censé donner aussi des informations sur toi provenant de Facebook, mais qui marche aussi dans l'autre sens et qui permet à Facebook de savoir ce que tu fais sur le site en question ou dans l'application en question.
Super intéressant.
Donc ouais, donc je pense que c'est allez voir donc Facebook of Activity, on vous a mis le lien dans la, on va vous mettre le lien dans les notes. Je sais pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs. Allez jeter un coup d'œil et donc faut savoir que Google a lancé ça il y a déjà un petit moment, hein, c'est pas forcément nouveau, mais l'avantage de Facebook c'est que Facebook a beaucoup plus d'informations sur vous. Oh, quoi que je sais pas, remarque. C'est des informations différentes et qui viennent de sites tierces en fait.
Mmh. Donc. Mais c'est assez impressionnant, hein, mine de rien.
Ouais.
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 Bon. C'est... Après, il y a aussi un bouton pour les supprimer, je crois. Donc,
Exactement. Ouais, exactement. Donc tu peux très bien, tu peux dire si t'as envie. Ouais. T'es gentil, coco, mais je veux pas que tu aies toutes mes infos. Mais.
Allez, bref, je le fais.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant de voir le contenu aussi, je pense que c'est ça fait pas mal, ça fait partie de l'hygiène informatique. Bon, ça fait plus de 45 minutes qu'on parle, je te propose qu'on passe au follow.
Allez.
Je commence.
Ouais, si tu veux.
Allez, hop, je commence. Donc je vais vous parler de MiCode, qui est un truc que je connaissais pas, et en fait, pour être très honnête, c'est l'ami Guillaume Vendée du podcast Tech Café qui en a parlé dans le dernier épisode, qui m'a donné envie d'aller jeter un coup d'œil à MiCode. Alors MiCode, c'est une chaîne YouTube en français, et en fait, ça parle de croc escroc, qui est un concept dont tu nous avais que tu nous avais présenté au cours du dernier épisode, Stéphane, avec comment il s'appelait le croc escroc que tu nous as présenté, Kit Boga.
Ouais.
Et donc en gros, donc MiCode fait un peu la même chose dans une série de vidéos en particulier où en fait il infiltre un réseau de scammers IT. Donc je sais pas si tu vois un petit peu, c'est des trucs qui nous sont tous arrivés à un moment donné quand on va sur des sites un peu louches ou des sites sur lesquels on devrait pas aller. Je donne pas plus de détails que ça, et que d'un coup t'as une grosse fenêtre toute bleue qui s'affiche et qui te dit avec un son un peu bizarre, ou soit une alarme, soit une voix synthétique qui te dit votre ordinateur a été piraté, pour enlever le virus veuillez appeler ce numéro de téléphone, et donc t'as un numéro de téléphone qui s'affiche. Et donc en fait, en gros, lui, il est allé voir ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Mm-hmm. C'est quoi ce numéro de téléphone? Enfin, qui sont les gens qui créent ce genre de choses? Comment ça marche? Et donc, il a infiltré le truc. Il est allé jusqu'à l'île Maurice pour aller, en gros, rencontrer les gens qui sont dans les centres d'appel de l'autre côté du téléphone qui prennent votre numéro, enfin qui prennent votre appel. Donc voilà, donc il a fait 3 vidéos de plus de 20 minutes, donc ça fait plus d'une heure de vidéo. J'ai pas encore tout fini, mais j'ai pas encore fini toutes les vidéos, mais c'est pas mal. Et puis il fait beaucoup de vidéos sur le sujet, en gros pour ouais, c'est assez cool en fait. C'est il y a plein de contenus comme ça en anglais qui m'arrive de regarder un petit peu de temps en temps, un peu dans le même esprit que ce que tu nous as partagé
Mais lui est en français donc.
Mais lui, voilà, il fait tout ça en français et donc ça parle aussi pas mal du point de vue français des choses parce que c'est un petit peu différent par moment de ce qui se passe dans le reste du monde ou dans l'univers un peu plus anglo-saxon de la tech. Donc voilà, donc MiCode. Encore une fois, je suis un peu novice, mais j'ai commencé à regarder certaines de ses vidéos et je me suis abonné et je pense que je vais continuer à le suivre.
C'est cool, je regarderai. Parce que, tu sais, quand j'avais parlé de Kit Boga, j'avais commencé à regarder des heures de vidéos, et donc là, du coup, ça m'intéresse aussi de voir ce qui se passe derrière.
Ouais. Carrément. Cool. Tu nous parles de passenger shaming?
Ouais. Alors, en fait, ça vient d'un compte, d'un autre compte Instagram que j'avais commencé à suivre, et qui, en fait... c'est un compte Instagram qui partage des photos et des vidéos de gens qui font un peu qui agissent de manière stupide dans le métro de New York. Et en fait, il s'avère qu'il y a un autre compte qui s'appelle Passenger Shaming qui fait un peu la même chose, mais pour les gens qui prennent l'avion. Et donc du coup, tout le monde peut comprendre en fait comprendre que le problème de ces situations. Et donc en fait, si tu vas sur instagram.com/ passengershaming, donc passenger shaming, en fait c'est plein de photos et de vidéos de gens qui font des choses assez bizarres que franchement personne ne devrait le faire dans un avion, mais ces gens-là le font quand même. Et donc, du coup, bah, ça permet de rigoler un peu. Voire d'être effrayé, parfois.
Ouais. Ouais, il y a beaucoup de trucs à base de des gens qui enlèvent leurs chaussettes et qui mettent leurs pieds sur les sièges. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un article qui a été partagé, enfin une capture d'écran d'un article justement partagé par Passenger Jim qui dit que les compagnies aériennes américaines vont implémenter une loi qui t'interdit de vont mettre en place une loi qui t'interdit de mettre tes pieds nus de te balader pieds nus dans les avions commerciaux. Et que tu pourras prendre une amende jusqu'à 150 USD, $150.
Voilà. Bon, c'était un compte qui m'avait fait, ouais, je me suis bien marré à le regarder. Donc,
ouais, j'avoue, c'est pas mal. Donc, passenger shaming sur Instagram. Cool. On a fait un peu plus long que d'habitude, donc on va faire court. Stéphane, si on veut se connecter avec toi, et en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on te retrouve? Allô?
Allô, ouais. Désolé, j'ai tendu. Donc moi, je suis sur Twitter et mon pseudo, c'est Stéphane, at Stéphane.
Et cool. Toi? Et sur Byte, du coup.
Et aussi sur Byte.
Moi, je suis sur Byte, at léthargique, n'hésitez pas à m'ajouter. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, at léthargiquepanda. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez aller sur hashtagpodcast.com pour avoir les listes de tous les épisodes qu'on a postés précédemment. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur #_pod sur Twitter. Voilà. Bon, bah écoute Stéphane, à la prochaine.
À la prochaine.
Ciao.
Ciao.